des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Nul ne peut consommer une boisson alcoolisée lorsqu'il chasse. C'est le projet de loi 88 qui dit ça. Et mon prochain invité est contre cet article-là qui a été inséré dans le projet de loi. C'est Sylvain Roy du Parti québécois, député de Bonaventure. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Pourquoi vous êtes contre ça? C'est vrai que ça peut être dangereux si on est sous l'effet de l'alcool, puis on chasse, on peut se mettre à tirer au mauvais endroit.
Ben, regarde, faut pas en mettre trop, là. Le chasseur n'est pas une sous-catégorie d'individus dans la société, sont des gens responsables. Tu n'as pas le droit de prendre ta voiture après si tu dépasses 0.8, mais ça devrait être la même règle qui s'applique aux chasseurs. Qui plus est, tu as passé l'avant-midi à la chasse, tu rentres dans la pourvoirie, tout inclus, tu manges un bon repas, tu n'as pas le droit de prendre un verre de vin parce que tu vas avoir consommé un verre de vin et tu ne peux pas retourner à la chasse en après-midi. C'est n'importe quoi.
Ouais.
Et faut quand même avoir du jugement dans ce dossier-là. Et permettre aux chasseurs de pratiquer une activité de loisir en respectant les règles qui sont établies actuellement, mais je vois pas pourquoi on durcirait d'une manière très significative le comportement ou à tout le moins les règles par rapport aux chasseurs dans leur activité. Là. Ça, je ne comprends pas. Puis il y a pas juste moi qui comprends pas, il y a pas mal de monde. Et j'ai parlé au ministre, puis le ministre est prêt à modifier l'article qui traite de zéro consommation. Et, autre enjeu, qui va assurer l'application de cette loi-là? C'est pas les agents de la faune, parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour aller vérifier le taux d'alcoolémie en pleine forêt.
Mais ça, ça peut se corriger? Ça? On pourrait, à la limite, leur donner des ballons, comme on dit?
Oui, on pourrait leur donner ça. Et aussi, il faudrait leur donner l'autorisation d'arrestation et les mêmes droits que les policiers. Donc, il y a pas mal de trous là, dans le projet de loi. Là. Et sur cet article-là, pour le moment, c'est pas applicable pour les agents de la faune parce qu'ils n'ont pas les instruments. Ils n'ont pas la capacité d'arrestation. Et moi, je trouve que c'est discriminatoire par rapport aux chasseurs.
Donc, alors, vous me dites que le ministre est ouvert à enlever cet article-là. Donc, c'est problème réglé un peu, déjà.
Il va juste retourner à l'article de la consommation d'alcool avec... C'est parce que quand tu vas à la chasse, à moins d'y aller à pied, là, en arrière de la maison chez vous, mais en général, t'es en VTT, tu es en côte à côte, en pick-up, t'es en voiture, fait que c'est là que ça régule le comportement. C'est le point 8, t'as pas le droit. Si tu prends 3 bières, arrête ça là. Mais tu peux pas te rendre à ton trou de chasse. Tu sais, en général. Fait que c'est ça, la loi. Donc, moi, je trouve que c'est correct. Puis il y a dans les chasseurs, ça a des têtes brûlées, puis ça a des... Et 95-96% des gens respectent la loi, sont corrects, ne font pas d'abus. Il y a toujours du monde qui exagère, c'est comme dans n'importe quoi.
Quel pourcentage, selon vous, Sylvain, des chasseurs vont à la chasse pour prendre une brosse?
Ben, c'est la même catégorie qui prend une brosse tout le temps. C'est-à-dire qui prennent une brosse à la chasse ou... à la Saint-Jean ou pour fêter, je sais pas, me lever le soleil ou le coucher. Je veux dire, la gang qui prend un coup, ça prend un coup en général pas mal solide. Je veux dire, il y a toutes les catégories. Tu ne deviendras pas alcoolique parce que tu rentres dans le bois et tu vas à la chasse. À mon avis, ça n'a rien à voir. Puis ça, ce sont des préjugés qui ciblent les chasseurs. Le chasseur, c'est qui? C'est moi. C'est monsieur, madame, tout le monde qui pratique une activité de loisir.
Mais combien de fois le lundi matin, on entend dans les nouvelles qu'il y a eu un accident de VTT, les gens étaient justement sous l'effet de l'alcool. Et c'est cet hiver, là, les motoneiges.
Les motoneiges.
Aussi. Oui. Donc, il y a quand même un problème qu'il ne faudrait pas nier dans ces activités-là. Extérieur et c'est...
Absolument, absolument, mais la loi est là, elle existe, à moins qu'on fasse descendre la règle à 0.5, à 0.05, mais la loi existe et les accidents en VTT, en motoneige, en voiture associée à l'alcool, existe, mais on diminue de manière significative quand même. Et moi, à mon avis, on ne trouve pas un niveau plus élevé dans le domaine de la chasse que dans les autres activités. Donc, il y a une statistique dans les comportements humains associés à la consommation d'alcool qui est transversale, puis qu'on retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité de loisirs. C'est dommage, chaque décès est tragique, puis chaque accident aurait pu être évitable, mais là, parce qu'on enferme tout le monde, puis on interdit tout. Je pense que pour en revenir à zéro alcool, à la chasse, moi, je crois qu'il faut revenir à la loi actuelle, c'est-à-dire 0.8 dans le comportement de déplacement, puis ça vient réguler les comportements.
Vous avez été le premier, en tout cas que moi j'ai entendu, à sonner l'alarme sur la pénurie de bois au Québec, puis sur l'augmentation hallucinante du prix du bois. Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus? Vous avez demandé là, comme une préférence québécoise pour les débouchés du bois. Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus?
Ben, je sais que, bon, il y a des personnages pas mal plus importants que le simple député de Bonaventure qui ont compris que c'est un enjeu important, comme l'Association des quincailliers du Québec, l'Association des entrepreneurs en construction, sont en négociation avec le gouvernement pour trouver des solutions. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai trouvé dans la loi où est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus, là. Puis j'ai parlé à notre ancien collègue, Nicolas Marceau, un ancien ministre de l'Économie, qui m'a expliqué que l'article 20 du GATT, paragraphe J, dit qu'on peut restreindre les exportations dans des situations de sauvegarde de la santé publique, de protection des animaux. Il y a quelques règles. Puis, avec cette clause-là, on serait capable de restreindre l'exportation du bois aux États-Unis pour satisfaire les besoins domestiques de l'économie locale. Et pourquoi je dis ça? Parce que, 1er juillet, il y a des maisons qui ne seront pas livrées et il y a des gens qui vont être dans la rue. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Des campings improvisés à Montréal, là, il va en avoir un qui va être pas mal plus grand que cette année. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de matériaux dans une nation qui est une productrice de matières premières à ce niveau-là. C'est inconcevable. Donc, moi, par rapport à l'enjeu de santé publique que représente l'augmentation du nombre de sans-abri parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à du logement, à du loyer, puis les maisons ne sont pas livrées, mais je revendique la clause de restriction des exportations pour permettre à l'économie québécoise de ne pas péricliter.
Ça passerait le test des accords internationaux?
Ben, il y a un autre élément. Ça s'appelle un enjeu de réciprocité. Les Américains ont retenu les vaccins et les masques. Okay? Mm-hmm. Ils ont fait le coup, là. Ils nous ont interdit d'avoir accès aux vaccins et aux masques. Ben, nous, on peut, par effet de réciprocité, restreindre le bois. On peut le faire. Mais ça prend de la colonne vertébrale. Ça prend une volonté politique. Puis, c'est pas moi encore, le député de Bonaventure, là, dans le fond, David Deschaleurs, qui est capable de faire ça. Il faut que le gouvernement comprenne ça. Mais ça vient de la population. Le prix a augmenté. Écoute, hier, j'étais voir un producteur de bois. Lui, il vend une corde de 200 $. Je vais te donner un exemple de ça. Mm-hmm. Bon. Pour faire 1000 pieds de bois, ça prend deux cordes. OK? Deux cordes de 7, tu fais 1000 pieds de bois. 1000 pieds, ça veut dire 10 pieds d'eau par 100 pieds de long. Un pouce d'épais. Donc, c'est 1000 pieds de surface de bois.
Ouais.
Lui, il va avoir 400 $ pour ses deux cordes. Le bois se vend. Le 1000 pieds transformé, là, au bout de deux heures là, de moulin, même pas une. C'est 4000 $.
Ouh.
OK? C'est incroyable. Et moi, ce que je dénonce là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de partage de richesse actuellement dans la flambée des prix du bois de construction. Les travailleurs en usine n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Les camionneurs n'ont pas vu une bonification significative. Pire que ça, ils ont vu leurs assurances tripler depuis des années.
Les patrons, eux?
Les patrons, eux autres, ils deviennent riches et prospères. C'est que c'est des machines Afrique, là, actuellement.
C'est ça.
Regarde, c'est un dossier qu'il faut travailler. Mais il y a une belle initiative qui s'est créée dans la vallée de la Matapédia.
Ah oui?
Un jeune homme a créé un site web pour demander aux propriétaires terriens de lots forestiers qui veulent mobiliser du bois, vendre du bois, ben de l'offrir à des petites scieries, des scieries portatives, pour qu'ils transforment du bois pour le vendre à un prix décent aux communautés locales. Donc, ce sont des genres de d'ententes de partenariat très localisés pour offrir des produits forestiers bon, du 2x4, 2x6, de la planche, à des gens qui ont besoin de faire des petites rénovations. C'est sûr que là, pour bâtir une maison, il faut avoir une problématique de certification de bois et d'assurance, là. Mais pour faire des petits travaux, des agrandissements, c'est merveilleux. Fait que moi, c'est une stratégie que je compte mettre en valeur, puis qui pourrait donner une leçon aux gros industriels qui prennent pour acquis le marché local, puis qui poussent beaucoup de bois aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, quand les États-Unis, ça va être terminé, là. Ils vont se revirer vers le marché domestique pour écouler leur surplus.
Oui.
Mais peut-être qu'on va trouver des alternatives. On commence à acheter des poutres en aluminium pour bâtir.
Ouh.
Mais toutes les entreprises vont avoir commencé à acheter des poutres en aluminium. Penses-tu qu'ils vont revenir au bois? Ils vont avoir développé, acheté de l'équipement, des outils, ils vont avoir développé des techniques de construction différentes pour compenser l'augmentation faramineuse du prix du bois. Donc,
mais ça va peut-être être bon pour notre industrie de l'aluminium?
J'espère, je l'espère, parce que là, il m'est venu des affaires aux oreilles que j'ai pas trop aimées. Exemple, une maison des aînés au Lac-Saint-Jean qui serait bâtie avec de l'aluminium de la Chine. Fait que ça reste à valider, là.
Mais, ben voyons donc. Ça serait vraiment incroyable, là. On est dans la vallée de l'aluminium là-bas, là. Voyons donc. C'est fou. Ouais,
c'est l'incohérence. On ne sera pas au premier effet de l'incohérence. Souvent, les entrepreneurs en construction parlent d'importer du bois de l'extérieur.
Alors, ça me fait penser au saumon fumé qu'on achète en Gaspésie et qui vient du Chili.
Oui. Mais là, je vais avoir une bonne nouvelle pour toi. Les Autochtones de Restigouche viennent d'avoir une entente avec le fédéral pour vendre des produits de la mâche.
Bon, formidable. Saumon,
homard et tout ce que tu veux, mais c'est pas bon pour la ressource. Bon.
C'est pas bon pour la ressource, oui. Ben, si c'est bien géré, peut-être.
À suivre.
Très bien. Vraiment, en terminant rapidement, vous êtes opposé, Sylvain, à cette idée des jeunes péquistes d'appliquer la loi 101 au cégep, qui est finalement devenu le projet du Parti québécois. Là. Ça fait des années que Pierre Curzi, il y a une dizaine d'années, poussait pour ça. Vous êtes opposé, vous êtes le seul dans le caucus. Pourquoi?
Ben, premièrement, on avait le choix. Hein? Je pense qu'on avait la liberté d'exprimer notre position.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est trop localisé, à mon avis, comme stratégie dans l'écosystème du cégep pour régler la problématique. On ne pourra pas régler le problème du déclin de la langue française avec une stratégie micro-localisée dans un écosystème spécifique. Moi, j'aurais aimé qu'on élargisse tout ça. Je vais te donner un exemple. On a ce qu'on appelle la déréglementation des frais de scolarité à l'université. On permet maintenant, on facture des 25-30 000 à une riche clientèle anglophone pour venir suivre des cours dans les universités au Québec. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça crée, écoute, McGill et compagnie font de l'argent avec ça. Mais les autres universités qui veulent avoir accès à cette clientèle-là se tournent vers des programmes en anglais pour attirer cette clientèle richissime-là, mais ça vient pénaliser les étudiants québécois parce qu'on transforme on anglicise les programmes pour être attractifs face à une clientèle fortunée internationale. Ça aussi, c'est important. Puis c'est un autre enjeu qui doit être défendu. Moi, là, je ne suis pas contre la loi 101, loin de là, mais j'aurais aimé qu'on ait une approche plus globale. Et je n'ai qu'exprimé mon droit de vote, mais je suis solidaire avec mon parti, là. Faut faire attention, là. Mais j'ai émis une autre opinion. Puis j'ai puis je suis sociologue, hein. Puis tu sais, j'ai quand même une vision de la culture. Moi, je me dis, il faut travailler sur les déterminants d'attractivité, d'attachement de notre culture. Ouais. Puis c'est pas toujours par des mesures législatives et coercitives. Faut démontrer comment on met notre culture en valeur. Ben c'est en démontrant qu'elle est émancipatrice, qu'on crée de l'innovation, de l'adaptation, de la prospérité. Ce sont des valeurs d'attractivité. Mais si on prend juste des lois, là, finalement, on s'en sortira pas.
Avez-vous décidé si vous vous représentez en 2022, Sylvain?
Et Sonia, je suis pas rendu là.
OK.
la politique, là. Mais je vais te dire une chose. J'ai encore la passion. Parce qu'on fait des gains, je fais des... Bon, exemple, je viens d'avoir... la semaine passée, j'ai réussi à faire reconnaître la maladie de Lyme comme maladie professionnelle.
Oui.
C'est un combat que des groupes ont mené. Tu sais, sur la charte, je suis toujours actif. Fait que moi, là, je le fais parce qu'on fait des gains. Puis on empêche souvent notre civilisation de reculer. Puis cette passion-là, je l'ai encore. Fait que voilà les 10 que je te donne.
Merci beaucoup, Sylvain Roy.
Ça m'a fait plaisir.
Je rappelle que Sylvain Roy est député de Bonaventure du Parti québécois. Il est porte-parole du PQ en matière de forêt, faune et parc, entre autres, parce qu'il y a, plusieurs dossiers sous sa responsabilité. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.